Zone 54 est un projet photographique et sonore que nous avons réalisé avec un groupe de zonards de 2012 à 2017. Je souhaiterais ici vous raconter cette histoire en mêlant à mon récit quelques bribes de leur voix enregistrées durant ces années à leur côté.
Bonjour monsieur.
Ils sont appelés punk à chien, jeunes en errance, toxicomanes, zonards. Aucun de ces termes n'était satisfaisant pour les personnes que j'ai rencontrées et avec lesquelles j'ai travaillé. La grande difficulté à nommer un tel groupe est due à leur porosité. Est-ce qu'on doit les accrocher au mouvement punk, aux personnes sans abri, aux travelers, aux festivaliers, aux zonards qui ne voyagent pas? Il y a une multitude de facettes de leur quotidien qui fait que selon les périodes, ils pourraient appartenir à l'un ou l'autre de ces groupes. Ils sont tantôt en squat et quelquefois sans abri, tantôt en camion, mais la plupart du temps à pied, en train et parfois même en voiture. Ils sont de temps en temps en festival, souvent en déplacement, et parfois, ils passent une ou plusieurs années dans la même ville.
Le truc, c'est que l'eau, t'as froid, ok, après le froid, t'as support, mais c'est épuisant. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fini ta manche, tu rentres, t'es crevé, alors t'as rien fait spécial. Mais c'est épuisant.
J'ai fait le choix d'utiliser le terme zonard en concertation avec elle et eux. J'aurais aimé créer un nouveau terme, mais notre production étant photographique, nous avons estimé que notre travail devait s'attarder sur la manière de les montrer et non de les nommer. Nous avions comme souhait de transformer les choses, d'apporter de nouvelles connaissances visuellement et non sémantiquement. C'est pourquoi nous avons choisi le terme zonard, c'est le mot qu'ils utilisent le plus et celui qui les dérange le moins. Le terme punk à chien n'est apprécié par aucune des personnes que j'ai rencontrées. Il s'agit pour eux d'une étiquette dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. C'est un terme négatif qui renvoie à une sorte de vacuité de l'être et qui donne une image négative de leur rapport à leur chien. Dès les premiers mois, ce terme a été évincé.
Alors, moi, fils de pute, je sais pas, je suis pas d'accord. Mais après, ouais, quand il a dit, ouais, machin, l'espèce de skin, je sais pas quoi, là, tu lui as dit, mais t'as qu'à regarder à internet. Et moi, c'est pour ça que je suis allé en lui disant, les punks et les skins, on est tous de la même génération, faut faire la différence, on est antifa. Et là, toi, t'as sorti ta bouteille et lui, il sort un truc de son sac et ah, c'est mort.
Nous avons aussi choisi le mot zona, puisque selon leur dire, la zone représente la ville et ses alentours. C'est l'endroit dans lequel ils vivent et ils se déplacent. Ils s'appellent zonards en tant qu'habitants et usagers de cette zone. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons appelé le documentaire que nous avons réalisé Zone 54. C'est un documentaire sur un groupe de zonards et de zonardes de Meurthe-et-Moselle, qui est le département 54. Comment a commencé ce projet ? J'ai toujours voulu savoir ce qui se passait dans la tête des gens. J'ai pris mon envol tout doucement, d'année en année. Avant de commencer ce projet, je travaillais autour de mes amis, puis de ma famille. Une fois que je me suis sentie prête, j'ai commencé Zone 54. C'était juste après mon master aux Beaux-Arts en 2012. J'entamais au même moment un master en anthropologie à l'Université de Strasbourg. D'ailleurs, après Zone 54, j'ai commencé Alan Wassalan Bienvenue, un projet documentaire que je réalise depuis 2017 avec des personnes réfugiées syriennes. Dans ce nouveau projet, j'ai voulu pousser encore un peu plus loin ma rencontre avec l'autre. Avec Zone 54, je rencontrais pour la première fois des inconnus. Avec Alan Wassalan Bienvenue, je rencontrais pour la première fois des personnes qui ne parlaient pas français. J'ai toujours envisagé que le seul moyen possible pour comprendre ce qui se passait dans la tête des personnes était de travailler de manière collaborative avec eux. Et j'aimerais maintenant vous raconter un peu plus la manière dont nous nous sommes rencontrés et la manière dont nous avons collaboré. Pendant plusieurs semaines, j'ai arpenté sans relâche la rue Saint-Jean à Nancy à la recherche de punk à chien. Si les zonards le long de cette rue ne manquent pas, mon courage s'évanouissait pas à pas lorsque je m'approchais d'eux. Un jour de novembre, entre le centre commercial et la place du marché, l'une de ces personnes m'accoste pour me demander une cigarette. Il est grand et il semble avoir une petite trentaine d'années. Il a des Doc Martens noirs usés surmontés de lacets rouges, un pantalon noir avec plein de poches sur le côté, un t-shirt, une veste noire un peu abîmée et décolorée, avec dessus une petite pièce en tissu cousue avec une croix gammée barrée. Il a les yeux bleus, une barbe de quelques jours et une crête à la Elvis. C'était une grande crête sur ses cheveux châtain foncé bouclés qui formait une sorte de banane au sommet de son crâne. Il tient en laisse un chien noir, jeune, avec une petite tache oblongue qui part du cou au ventre. Cette personne a un style très punk, un chien, taxe des cigarettes, c'est exactement ce que je cherchais. C'est mon moment. Le temps de rouler la cigarette, je le vois comme une opportunité en or pour pouvoir lui expliquer maladroitement tous les tenants et aboutissants de la recherche collaborative que je voulais mener avec eux. Je l'invite alors timidement à boire une bière place du marché, ce qu'il accepte avec malice. Sinoc se plaît ainsi à raconter notre rencontre. Je lui ai taxé une clope et elle m'a payé une bière. Ce fut l'une des rares fois où je bus un verre à une terrasse avec un zonard. L'idée d'un projet collaboratif semble lui plaire et dans les mois suivants, plusieurs fois, nous nous retrouvons tous les deux sur un grand terrain vague qui s'appelle le Caillou et qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un point stratégique, il est central dans la ville, mais aussi suffisamment isolé et grand pour pouvoir lâcher les chiens et leur permettre de courir en liberté. Durant cette période, je rencontrai aussi quelquefois Ingrid et Lélé, deux de ses amies, et ils partirent tous les trois dans le sud à la fin du mois d'avril 2013. À ce moment-là, en avril, ce fut la dégringolade. Ils partaient tous les trois et je ne connaissais personne d'autre. 7 mois après ma première rencontre, j'étais de retour à la case départ. J'ai alors tenté une nouvelle approche avec une personne qui faisait la manche près du carrefour. C'est un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux courts et avec un visage un peu enfantin. Il jongle devant le feu rouge avec un bâton du diable. Je le salue timidement. Il me demande si ça va, puis nous engageons la conversation. Julien n'a pas de chien et il est différent de tous ceux que j'avais rencontrés jusque-là. Il n'a pas trop l'air punk. Car à ce moment-là, j'étais encore à la recherche des punks déchus du troisième millénaire. D'autant que Sinoc, Ingrid et Lélé, même s'ils ne se disaient pas punk, avaient un côté destroy à la Sex Pistols. Mais Julien me rassura vite. Il me parlait d'une association où il y a plein de vieux punks, des vrais, des libertariens, des anarchistes et qui voyagent. La totale, tout ce que je voulais. On se donne rendez-vous 3 jours après. Je vais au carrefour, mais il n'est pas là. Je me balade un peu et je croise Martins, qui est un zonard un peu qui ressemble à Kurt Cobain et que j'avais déjà croisé quelques fois avec Sinoc. Il fait la manche près du McDo, il est en plein cagnard, il fait au moins 30 degrés. Les policiers arrivent, du coup on va faire un petit tour et on se met assis près du carrefour. C'est à ce moment-là que je rencontre Franck. Franck a une trentaine d'années, les cheveux rasés, châtains, les yeux bleus, une voix rauque un peu cassée. Son visage est à la fois dur et joyeux. Il porte un jeans large avec une chaîne en métal accrochée, un pull rayé vert et noir et ses fameuses Doc Martens avec le drapeau anglais sur la pointe des chaussures. J'ai tout de suite accroché avec lui. Sa manière de faire la manche est joyeuse, il jongle un peu, il accoste les personnes, il rigole avec. Avec sa voix rauque et un peu sensuelle, il va au devant des personnes et les accoste volontiers dans un savant mélange d'entrain et de distance. Il est accompagné de Sultane, une jeune femelle berger allemand qu'il vient de récupérer. Son ancien propriétaire l'a battée, elle est maigre et craintive. Alors qu'ils ne sont ensemble que depuis quelques jours, ils sont déjà très complices et ils ne se lâcheront plus. Franck me donne ses heures de manche pour que je puisse le retrouver facilement. Tous les jours, de 5 à 7, sauf le dimanche. Sauf jour de galère, et là, c'est la manche le dimanche matin au même endroit. Je ne le savais pas encore, bien que je l'espérais, mais Franck deviendra mon compagnon de zone. C'est lui qui m'ouvrit le premier les portes d'un squat, qui me fit rencontrer du monde au Caillou et qui m'amena à Paris rencontrer Eric et Amy, deux autres personnes très importantes dans le documentaire. J'aimais sincèrement passer du temps avec lui, On discutait beaucoup, de tout, de rien. On réfléchissait au projet, à ce que c'est d'être punk, d'être zonard. On parlait de notre rêve respectif. On réfléchissait à la société et on écoutait pas mal de musique sur son vieux téléphone portable pourri.
Je m'appelle Clouf et j'emmerde tous les réacs. C'est un réac.
Un réacteur. Bonne soirée, c'est l'anniversaire de notre bassiste. La million joue, c'est pas plus tard, c'est bon, je vous aime.
Bon, j'en fais une petite dernière, ça va. Une claque de ça. Une schlune. J'en fais une petite.
Nous sommes en juin 2013 et je n'ai toujours fait aucune photographie. La confiance de Franck et de toutes les personnes qu'il m'a fait rencontrer ensuite me permet au bout d'un moment d'être suffisamment à l'aise pour commencer les photographies dans les semaines suivantes. Tout le documentaire a été fait avec un appareil argentique moyen format, le Pentax 6-7. À partir de ce moment-là et pendant les 3 années qui ont suivi, je leur ai systématiquement montré toutes les photographies que je faisais. Tous les 5-6 mois, j'envoyais développer mes pellicules, je les scannais, puis je les mettais sur mon téléphone. Dès que tout était en place, je faisais un tour de la zone pour discuter avec eux des photographies que j'avais faites. On parlait de l'image qui était renvoyée d'eux, mais aussi de lumière, de cadrage, etc. D'ailleurs, l'une des premières réflexions qu'ils m'ont faites, et ils étaient tous unanimes là-dessus, c'était qu'il fallait que je prenne beaucoup plus de photographies de leurs chiens. C'est vrai que j'étais assez concentrée à ce moment-là sur leur quotidien, et les chiens passaient pour moi au second plan.
En fait, c'est 5 euros la photo, t'en as pris combien?
Fin 2014, j'ai reçu la bourse Regards sans limite, car jusque-là, je finançais moi-même le projet.
Bonjour, monsieur.
Cette bourse m'a permis de faire plus de photos, mais aussi d'imprimer toutes les photographies que j'avais faites jusque-là. À partir de ce moment, j'avais toujours dans mon sac au moins 2 jeux de toutes les photos que j'avais faites, un pour discuter, un pour leur donner. Et je dois dire qu'à partir de là, à partir du moment où les photographies étaient sur papier et leur ont été données, les discussions étaient beaucoup plus ouvertes, plus longues et encore plus agréables. J'ai aussi profité de cette bourse pour réaliser le projet que j'avais depuis le début, qui était de leur acheter des appareils photo pour qu'ils puissent eux-mêmes documenter leur quotidien. Très vite, l'idée d'acheter des appareils numériques a été exclue. D'une part, le prix était prohibitif, et d'autre part, ils avaient difficilement accès à l'électricité pour charger l'appareil. Nous sommes rapidement partis sur l'idée de prendre des appareils photo jetables. Ils n'avaient pas peur de les abîmer, pas peur des vols ou des pertes.
Avant, je peux faire une belle photo de vous deux ?
Du printemps 2014 à la fin de l'année 2017, ils firent ainsi environ 300 photos, soit un peu plus que moi. Et j'étais très surprise de leurs photographies. Il y avait beaucoup de chiens, de manière très proche et très complice. Ce sont des photographies que je ne faisais pas du tout. Il y avait aussi quelques selfies que j'ai adorées, parce que par définition, je ne peux pas en faire deux. Mais il y avait aussi des découvertes. J'ai appris qu'ils allaient parfois au musée ou qu'ils faisaient des sorties canoë-kayak organisées par des centres sociaux. Autant de choses qu'ils m'ont montrées, mais dont ils ne m'avaient jamais parlé. Il y avait aussi des photos de leurs vacances, et il y en a une en particulier que j'aime beaucoup. On voit Eric et Amy qui posent en touriste au bord d'une route avec les gorges du Verdon derrière eux. C'est une photographie de voyage de type album de famille vraiment classique, et j'ai trouvé ça très drôle qui rejoue exactement ces codes-là pour se prendre en photo. Beaucoup de photographies ont été prises quand je n'étais pas là, et ça me donnait un sentiment que j'aimais beaucoup, qui était celui d'ubiquité. Je n'avais plus à être là tout le temps, le projet commença à devenir autonome. Il y avait parfois des photographies intimes, personnelles, et parfois des photographies de documentation de leur quotidien. Ces photographies m'intéressaient beaucoup, et avec le temps qui passait, on continuait d'échanger sur mes photographies, mais aussi beaucoup autour des leurs. Eric et Amy, en couple depuis plusieurs années, ont été les personnes les plus investies dans la finalisation du documentaire. Je les avais rencontrés dans un squat à Paris grâce à Franck. Pendant près d'un an, ils ne m'aimaient pas beaucoup et ils étaient très distants avec moi. C'est lorsqu'ils sont venus s'installer à Nancy qu'ils ont commencé à m'apprécier petit à petit. Tous les deux ont un style punk. Eric est grand et mince, il a les yeux bleus et quelques piercings et tatouages. Il a toujours sur lui sa veste en cuir noir et rouge, sur laquelle trônent quelques clous. Sa chienne Kira est absolument adorable, je crois que je ne l'ai jamais entendue aboyer. Émilie, elle est mince, elle a les cheveux assez courts bruns et elle les colore régulièrement en rose, en bleu ou en blond quand la teinture est partie. Elle est très communicative, souvent de bonne humeur et elle tient difficilement en place. Même pendant la manche, elle parle, dessine, etc. Elle avait un vieux et grand chien noir tacheté de blanc, tout aussi gentil que Kira. Entre les photos et les expos, le travail qu'a réalisé Amy dans ce projet est absolument incroyable. Pourquoi vous raconter tout cela? Est-ce qu'on est dans un cours d'ethnologie? Ou est-ce qu'on est encore dans le domaine artistique? Bien que je me situe dans le documentaire, je mets un point d'honneur à ne pas documenter de manière froide et distante. Je veux être avec, apprendre avec l'autre. Je souhaite me laisser transformer par la rencontre. Mon but est de faire varier notre regard sur certains sujets. Et pour cela, je pense qu'il est important de montrer différents points de vue sur une même situation. Il ne s'agit pas de dire que tout est rose, noir, gris ou encore bleu, mais de montrer de manière sensible et réaliste le quotidien de personnes que nous ne connaissons pas ou peu. Par mon point de vue, mais aussi les leurs, et j'insiste sur le pluriel. Lorsque nous réalisons des expositions, nous essayons de trouver une forme qui aille avec le fond. Et c'est sur ce point, à mon sens, que l'art et la science peuvent se rejoindre. En travaillant la sensibilité de la connaissance. La scénographie pour les expositions est pour moi centrale et ce pour plusieurs raisons. Lors de la première exposition que nous avons réalisée, suite à une résidence de 2 semaines au CCGP, mes photographies ont été projetées sur 3 grands écrans qui formaient une anamorphose. Quand nous étions au milieu de la pièce, les 3 écrans, qui avaient été construits au format 6-7, se transformaient en un seul et long écran. L'idée était d'appuyer qu'il faut faire varier son point de vue sur ce que nous voyons, et aussi sur ce que nous entendions. En effet, une boucle vidéo de 16 minutes défilait sur les écrans, tandis que le son, qui était des sons glanés durant plusieurs années sur leur quotidien, durait 1 heure. Le son était coupé en 4 séquences bien distinctes. Il y avait une manche classique, une manche joyeuse, un festival punk et des discussions en appartement. Selon le moment dans lequel nous arrivions dans l'exposition, nous ne percevions pas du tout les images de la même manière. Pendant le concert punk, leur quotidien semble léger et joyeux, et ces mêmes images s'alourdissent et leur quotidien semble peser beaucoup plus fort quand nous les entendons faire la manche. En plus de ces 2 installations, les photographies que eux avaient réalisées étaient accrochées au mur, accompagnées de tableaux et de bijoux réalisés par Amy. Le fait de croiser plusieurs narrations est central dans ma démarche. C'est en croisant différentes narrations et ainsi différents points de vue que j'entends raconter l'histoire des personnes que j'ai rencontrées. Pour chaque exposition, le documentaire évolue, des photographies sont enlevées, de nouvelles sont ajoutées. Et bien que mon outil principal soit l'appareil photo, je trouve cela dommage de se limiter à un seul médium par principe. Je peux prendre du son, de la vidéo, inclure des dessins, des bijoux. Il me semble que tout est affaire de fond et de forme, et le but d'une exposition est de trouver un terrain d'entente entre les deux. Je pourrais résumer ainsi la démarche que j'essaye de mettre en place. À travers ma manière d'aborder le documentaire, je cherche à construire un savoir collectif et à trouver des formes adaptées pour transmettre et rendre actives les personnes photographiées, tout comme les publics. Il s'agit de tenter de transcender l'usage référentiel de la photographie pour aller vers un usage social capable de créer un dialogue et une collaboration. Les moments d'exposition sont essentiels et tout particulièrement les vernissages. Je les vois comme une opportunité de casser le film, pour reprendre une métaphore photographique, entre le quotidien et les personnes représentées sur les photos et les spectateurs des lieux d'exposition. Le soir du vernissage au CCGP, presque toutes les personnes dont j'avais croisé la route ces 3 années présentes sont venues, ainsi que beaucoup de travailleurs sociaux que les zonards sont allés rencontrer pour l'occasion. J'avais très peur ce soir-là d'avoir dénaturé leur quotidien. Seulement Eric et Amy avaient assisté à l'installation. Au final, nous avons fait la fête toute la nuit, travailleurs sociaux, famille, zonards, et cette soirée reste l'un de mes meilleurs souvenirs. Voici l'histoire de Zone 54. Près de 10 ans après mes premières rencontres, c'est un projet qui continue de m'habiter. Je vous en parle ici. J'écris une bonne partie de ma thèse en anthropologie là-dessus. Et nous envisageons même une suite depuis 2 ans avec Émilie et depuis quelques mois avec Eric. Pour finir, je voulais remercier Franck, Eric, Amy, Julien et Sinoc, dont je viens de vous parler, mais je voulais aussi remercier tous ceux dont je n'ai pas eu le temps de vous parler aujourd'hui ou si peu. Ingrid, Lélé, Laetitia, Nathan, Martins, Mike, Gaëtan, Bisou, Thibaut et Leman. Évidemment, toutes les autres personnes que j'ai croisées et qui m'ont aidé à construire ce projet. Merci à eux et merci à vous.
Adieu. À jamais.
Hasta la vista, baby.